Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le réseau Morphée, qui est un réseau de santé consacré à la prise en charge des troubles du sommeil, a présenté la semaine dernière les résultats d'une étude sur le sommeil des collégiens en France. Il en ressort que les adolescents ne dorment pas suffisamment, ce qui a des conséquences sur leur santé et sur leur scolarité. En effet, le sommeil est un élément indispensable à l'équilibre de l'organisme. Il a par exemple un effet sur les fonctions psychiques. En particulier, c'est principalement au cours du sommeil paradoxal que se fixent les souvenirs et les apprentissages. Il exerce aussi un rôle de régulation dans la circulation sanguine, la digestion, la pression artérielle. L'hormone de croissance est par exemple sécrétée au cours du sommeil lent profond. La privation de sommeil entraîne donc une baisse de la vigilance, de la capacité de concentration, des troubles de l'humeur et sur le long terme, elle peut favoriser l'apparition d'un diabète ou d'une obésité. En 25 ans, en France, le temps de sommeil a chuté de 50 minutes chez les ados. Alors comment retrouver un bon sommeil tout en évitant le recours aux somnifères? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Sylvie Royan-Parola, elle est psychiatre responsable du centre d'exploration du sommeil à la clinique du Château à Garches. Elle est présidente de ce réseau Morphée et membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Vous pouvez bien sûr, si vous avez envie, l'appeler au 33 1 84 22 75 75. Vous êtes d'ailleurs déjà très nombreux à nous avoir contactés. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Ali Thiam, qui est neurologue au CHU de Fan à Dakar, au Sénégal. Et pour terminer, on parlera du don de moelle osseuse.
RFI.
Docteur Sylvie Royan-Parola, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour nous alerter sur ce sujet qui est important. Incroyable la quantité de réactions qu'on a eues sur Facebook. Je voulais vous lire pour commencer le message de Diallo Maki. Il dit « Ce problème n'est pas que français, il est guinéen, ivoirien, malien, sénégalais et africain même en général. Les facteurs qui m'empêchent de dormir sont de trois ordres. Le premier, la communication. J'ai des amis avec qui j'ai pris l'habitude de communiquer par téléphone entre minuit et 3 heures du matin. Nous restons finalement en conférence durant toute la nuit. Mon ordinateur, c'est le point 2. Avec plus de 200 films à l'intérieur, des centaines sur mon disque externe, je ne parviens pas à les regarder que les nuits, justement à partir de minuit. Mais j'ai pas trop le choix d'ailleurs, car franchement à Conakry, l'électricité ne vient qu'à cette heure-là. Et troisième point, c'est devenu une routine, une habitude. Incroyable ce témoignage. Vous entendez la même chose des ados en France?
Oui, mais on
sauf
voit
les problèmes d'électricité.
Une vraie évolution, un vrai changement parmi nos jeunes, et avec effectivement une connexion de plus en plus importante, avec quelque chose qui est nouveau, et dont ce témoignage le montre bien, qui est la communication. On est en plus en communication avec l'autre et n'importe quand.
Oui, c'est ça. On dit toujours les écrans empêchent la communication. Là, pas du tout. On le voit bien. Au contraire, les jeunes communiquent entre eux, échangent des SMS.
Absolument. Les jeunes ne sont pas du tout autistes.
Voilà. Donc, ils communiquent, mais il n'y a pas que ça qui empêche de dormir. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur la lumière des écrans qui nous empêche de dormir. Alors là, on peut dire, nous, il n'y a pas que les ados. Pourquoi? Expliquez-nous.
Parce qu'en fait, si vous voulez, contrairement à un livre qu'on lit, la lumière émise par l'écran est une lumière dans des tons bleutés. Et cette lumière bleutée va avoir une action particulière sur notre rétine parce qu'elle a, c'est elle qui dupe quelque part nos cellules rétiniennes en lui faisant croire que c'est un peu le ciel bleu qu'elle voit. Donc,
c'est ça.
Qu'il fait jour.
La lumière électrique pour lire un livre, c'est une lumière quoi? Blanche qu'on appelle?
C'est une lumière jaunâtre.
Et celle des écrans est une lumière qu'on appelle bleue.
C'est une lumière bleue. En fait, il y a des diodes qui sont dans des registres bleutés et qui vont vraiment évoquer et simuler au niveau de la rétine la même lumière que celle qu'on capte dans la journée avec un beau ciel bleu. Donc, ça donne un faux signal à notre cerveau, comme quoi il fait encore jour. Donc, ça retarde l'endormissement. Et bien sûr, si on le regarde la nuit, eh bien, ça va éveiller beaucoup plus qu'une lumière normale.
C'est ça. Donc, c'est pas simplement de communiquer, de chatter avec ses amis, de s'envoyer des SMS. C'est aussi cette lumière qui, quand bien même on arrête, en fait, on n'arrive pas à s'endormir, ou si on s'endort,
voilà,
on se réveille.
Ça a faussé les signaux de notre horloge biologique, et du coup, eh bien, on va mettre un certain temps pour arriver à se recaler, voire même on va se décaler complètement si on utilise régulièrement ce genre d'écran tous les soirs.
Donc, les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On va les prendre, vous allez leur répondre. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette étude que vous avez menée. D'abord, vous l'avez menée comment? Et puis, qu'est-ce que ça dit, en dehors des éléments que vous venez de dire, sur le temps de sommeil des ados?
Alors, en fait, ça montre que c'est une étude qui a été faite dans des collèges. Hein. C'est des ados très jeunes, ils ont entre 12 et 14 ans. et c'est sur quatre collèges, de la région parisienne, avec donc 767 collégiens qui ont répondu. Et c'était au des cours d'action qu'on faisait dans les écoles. Ils ont rempli un questionnaire en ligne et on a pu analyser les résultats. Et cette base est en train, en plus de s'augmenter, de tas d'autres ados qui se connectent aussi pour le faire. Et ce qu'on voit surtout, c'est que non seulement effectivement avec l'utilisation des écrans qui est importante, parce qu'il y a plus de 50% des jeunes qui sont connectés le soir, et y compris quand ils vont se coucher, ils se mettent aussi sur leurs appareils, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur ou même une console de jeu. Et donc, ils vont à ce moment-là retarder leur endormissement. Ça, c'est quelque chose de connu. Donc, c'est vrai qu'un adolescent qui s'endort plus tard va de toute manière devoir se lever le matin à la même heure. Donc, il y a vraiment une privation qui augmente. Et avec des jeunes qui dorment parfois moins de 6 heures, et il y en a 30% qui dorment moins de 6 heures, ce qui est énorme, hein. On pense que les besoins à cet âge-là sont plus près de 8h30, 9h que de 6 heures. Donc, ça fait déjà un déficit de sommeil tous les jours de 2 heures. Et en plus, ils vont éventuellement se connecter la nuit parce qu'ils vont répondre aux messages ou même pour 10% d'entre eux qui se donnent rendez-vous la nuit pour se retrouver et chatter ou discuter, enfin d'une manière ou d'une autre.
Alors,
avec les copains,
ils disent ok, bon bah je dors pas beaucoup la semaine, c'est pas bien grave, je me rattrape le week-end. Et là vous dites non, pas forcément du tout une bonne idée, parce qu'en fait ils subissent un décalage horaire.
Voilà, alors le décalage le week-end, si c'est 2 heures, ça va, 3 heures c'est peut-être encore gérable, mais quand c'est 5-6 heures, comme on le voit chez des jeunes qui vont se lever à midi, 1 heure, parfois plus, eh bien c'est un Paris-New York qu'ils font tous les week-ends, avec la fatigue du Paris-New York. C'est-à-dire, imaginez quand vous y allez à New York, les 3 premiers jours, vous êtes crevés. Bah, eux, ils sont crevés le lundi, mardi, mercredi. Ils commencent un peu à émerger le jeudi, vendredi, et hop, ils recommencent le samedi et le dimanche, donc c'est raté.
On va parler aussi tout au long de cette émission, j'ai commencé à l'évoquer moi au début, sur les répercussions de ce manque de sommeil, sur la santé physique, psychique de ces adolescents. On a Grâce qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Grâce, bonjour.
Bonjour.
Oh là là, il faut que vous parliez bien plus près du téléphone. Vous êtes sur haut-parleur, ce qui n'est pas possible. Il faut que vous parliez dans le téléphone. Et on vous écoute, Grâce.
Oui, en fait, moi je suis étudiante congolaise au Sénégal. Et depuis que je suis arrivée, vu que je vis toute seule, j'ai pas d'amis. Et mon ami, c'est mon téléphone, mon ordi. Je passe toutes mes journées sur le téléphone, sur l'ordinateur. Je suis là à causer avec mes amis qui sont ailleurs dans le monde. Et parfois, je suis toute la journée, vu que je suis en cours du soir, je fais que jouer aux jeux, les jeux de Facebook, les jeux qui sont sur mon téléphone. Et du coup, j'ai du mal à m'endormir. Et le pire, c'est que pour se réveiller, c'est des problèmes.
Du coup, vous n'arrivez pas à vous lever le matin?
J'arrive pas vraiment.
Ouais.
C'est inexplicable.
Et je ne sais plus si vous avez dit votre âge au début. Vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
Vous avez 23 ans. Finalement, ça devient, docteur Sylvie Royan-Parola, le smartphone, l'ordinateur devient aussi un compagnon.
Tout à fait. Enfin, c'est probablement, je pense que l'évolution la plus marquée, c'est avec le smartphone, parce que c'est un appareil qu'on a tout le temps avec soi, sur soi, et qui dans le lit est dans le lit maintenant. Et là, pour Grâce, on voit bien la difficulté, parce que d'une part, il y a la connexion, c'est-à-dire l'idée même de rester en lien toujours avec les autres et de rester en alerte, qui est un système déjà éveillant pour notre cerveau. Et la deuxième chose, c'est que l'écran d'un smartphone, c'est vraiment tout à fait ce que je disais par rapport à la lumière tout à l'heure, c'est que c'est très proche des yeux et c'est une lumière bleutée, donc ça va effectivement donner cette connotation en plus physiologique qui perturbe nos horloges internes et qui fait que ça retarde le sommeil, ce qu'elle décrit tout à fait. Et donc là, il n'y a pas d'autre solution, c'est qu'il faut apprendre à vivre différemment avec ces appareils, à les utiliser vraiment bien. Mais par contre, le soir, le sommeil, pour qu'il puisse s'installer, il faut être vraiment déconnecté. Donc il faut préparer le sommeil avant, en lâchant le téléphone. Et dans la nuit, s'interdire à recevoir des messages, et encore moins à y répondre.
Et du coup, quel est le conseil que vous donnez? Mais gardez pas votre téléphone dans votre chambre, allez le mettre dans une autre pièce.
Voilà, ou le mettre en mode avion, ou le mettre, il y a certains systèmes qui permettent permettent de programmer en fait des moments où il y a plus d'alerte, plus d'appels, sauf des appels de personnes, par exemple quelqu'un. On peut imaginer quelqu'un qui est inquiet pour sa maman qui est âgée ou un enfant, etc. On laisse juste ce numéro-là qui peut appeler,
et pas les
mais
autres.
Par contre pas les autres.
Ça va, peut vous aider ces conseils, Grâce?
Oui, parce que j'ai essayé, il y a des jours où quand j'ai quelque chose d'important à faire, je décale les journées sans écran.
Et vous y arrivez?
Oui.
Donc c'est faisable.
Donc il faut continuer.
Non, on n'est pas en train de vous dire d'ailleurs des journées sans écran. Ce qu'on est plus en train de dire,
c'est
le soir. Voilà.
Le soir et la nuit. Quoi. Dans la journée, ça ne pose aucun souci.
Oui. Merci beaucoup, Grâce, en tout cas, pour votre témoignage. Bon courage à vous. On a Mahmoud qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Mahmoud, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Mahmoud.
Non, moi, j'ai le même problème que Grâce.
Mahmoud, il faut que vous parliez bien près du téléphone, bien fort et en articulant. Autrement, comme les lignes téléphoniques ne sont pas très bonnes, on a du mal à vous entendre.
En fait, je viens tout juste de me réveiller, voilà.
Ah, vous venez de vous réveiller. Non, mais dites donc, il est quelle heure? Vous êtes à Dakar,
9h20. Oui, il est 9h20.
vous êtes étudiant et les cours n'ont pas encore commencé à cette heure-là?
Non, j'ai cours à 11h.
Vous avez cours qu'à 11h. Et alors, racontez-nous, pour la nuit précédente, vous avez été devant votre écran ou smartphone jusqu'à quelle heure?
À 3h du matin.
Ah, 3h du matin. Oui. D'où le réveil difficile, effectivement.
Moi, c'est pourquoi j'ai du mal à me lever. Vous m'avez appelé plusieurs fois, mais j'avais du mal à décrocher.
On vous a servi de réveil matin ce matin. Écoutez, c'est un réveil matin agréable.
Oui, se faire réveiller par tous les matins, ça va être dur.
Non, mais là, c'est bon, je me suis réveillé.
On va pas s'occuper de vous tous les matins. Mais racontez-nous, jusqu'à 3h du matin, sur votre smartphone, votre écran, vous faites quoi?
En fait, je suis sur YouTube, parfois aussi je suis sur Facebook, voilà.
Ouais.
Mais j'ai du mal, quand je commence à somnoler, quand je pose le téléphone, j'ai un problème. Je ne dors pas.
Vous ne dormez pas.
Et je le reprends tout de suite.
Mais du coup, vous le reprenez parce que vous dormez pas. Et c'est ce qu'il faut pas faire, docteur Sylvie Royan-Parola. Quel conseil donner à Mahmoud?
Ben oui, le problème, c'est que si on pose le téléphone en se disant, ben là, je vais m'endormir. En fait, il y a encore toute cette stimulation lumineuse, mais aussi sociale, qui est là. Donc, on peut pas décrocher comme ça. Il faut en fait poser le téléphone une heure avant d'aller se coucher et dire qu'on va se coucher, faire une activité calme, déconnectée pour le coup. Ça peut être de la lecture toute simple, voilà. Mais bien sûr, on a un cerveau qui ne peut pas switcher comme ça de l'activité au sommeil. Il faut vraiment un sas de décompression. Et ça, ce sas, il faut le préparer, l'organiser et surtout être régulier dans ses horaires.
Et est-ce que vous pouvez, parce que donc Mahmoud très certainement dormait au début de cette émission, donc ne vous a pas entendu expliquer cette histoire de lumière bleue. Et je pense qu'il faut le réexpliquer parce que c'est vraiment très important.
Alors effectivement, la lumière bleue en particulier est la lumière qui a le plus d'action sur nos cellules rétiniennes qui vont être en lien avec notre horloge interne pour lui dire il fait jour ou il fait pas jour.
Et cette lumière bleue, elle est sur tous les écrans d'ordinateur,
actuellement,
de smartphone.
Actuellement, oui, tous les écrans qui sont les écrans en particulier Retina pour lesquels c'est le plus vrai. Alors les anciens modèles, peut-être pas. Dès que vous avez un écran avec simplement un fond grisé et puis des lettres en noir, là non, vous avez pas du tout
ce qu'on a sur les liseuses,
ça,
par exemple.
C'est juste pour les c'est juste pour les SMS où il y a des liseuses en effet qui sont comme ça, et là il n'y a pas d'action supplémentaire, en tout cas sur les yeux. Mais les nouveaux smartphones basent tout leur succès aussi sur la beauté de l'image, sur la clarté de l'image, et là c'est grâce à des systèmes d'éclairage particuliers qui sont très très agréables à la vue dans la journée, mais qui dans la nuit, surtout avec le contraste qu'il y a entre une pièce obscure qui est la chambre et l'écran, l'écran est encore plus violent pour les yeux. Donc ça donne...
Et en fait, ça sécrète de la mélatonine comme en plein jour et ça nous réveille, c'est ça?
Alors, non, ça bloque justement la mélatonine, ça bloque la sécrétion de la mélatonine immédiatement, et du coup ça va décaler notre sommeil et décaler l'horaire d'endormissement ou voire durée d'endormissement si c'est en pleine nuit.
C'est pour ça que ça empêche Mahmoud de dormir quand bien même il
Absolument.
Est fatigué. Est-ce qu'on vous a convaincu du coup d'essayer de lâcher votre smartphone ou votre ordi quand vous vous couchez et un peu avant?
Ok, donc je vais sur son conseil, je vais essayer.
Essayez quelques nuits, puis vous voyez si du coup le sommeil s'améliore. Merci beaucoup de nous avoir appelé. On a Mohamed qui nous appelle de Conakry en Guinée. Mohamed, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
On vous écoute.
Voilà, j'ai aussi le même problème que ces gens-là qui ont intervenu tout de suite. Moi, mon cas est un peu délicat. Depuis tout petit, je suis habitué à veiller très tard la nuit. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je n'arrive pas à me défaire de cette habitude, en fait. Donc, ce qui fait que j'ai souvent des migraines et dans mon travail, j'ai trop de fatigue aussi.
Et en fait, c'est une habitude que vous avez prise très jeune, d'après ce que j'ai compris dans le message que vous avez laissé, de vous coucher tard.
Voilà, c'est ça.
Et pourquoi, racontez-nous, pour vous, même petit, vous vous couchiez tard?
Oui, bien sûr, c'était une habitude qu'on avait créée avec la maman.
Oui.
Et maintenant, jusqu'à présent, j'ai un peu du mal à me défaire de cette habitude, en fait.
Docteur Sylvie Royan-Parola, comment faire dans ces cas-là? Parce qu'avec ça, il y a des couches tard et des couches tôt, des lèvres tard, des lèvres tôt. Enfin, on a aussi une constitution.
Il y a une constitution qui est derrière et qui est une constitution génétique. Hein, donc, on ne décide pas d'être du matin ou du soir. Ça concerne à peu près 2-3% de la population au chaque extrême. Mais ce que décrit bien Mohamed, c'est le fait que ça peut aussi quelque part s'apprendre et se cultiver. Et si dans la famille on l'a laissé très très petit se coucher très tard et que il a aussi une tendance éventuellement à être un petit peu du soir, il va se décaler comme ça et s'endormir très très tard. Le problème, évidemment, c'est que dans la vie sociale, on peut être, du fait de son travail en particulier, obligé de se lever assez tôt. Et à ce moment-là, le temps de sommeil sera notoirement insuffisant avec des conséquences sérieuses le lendemain. Vous parlez de maux de tête, ça peut être, oui, des maux de tête, mais il y a des problèmes cardiaques quand on dort pas assez. Il peut y avoir aussi des problèmes de poids. Il peut y avoir aussi une baisse des défenses immunitaires. Donc, la privation de sommeil elle-même est un vrai problème de santé publique qu'on ne mesure pas nécessairement à 20 ans, mais qui à 35, 40
c'est
ans...
C'est quoi? C'est avec le temps que s'accumulent ces problèmes de santé?
Oui,
qu'on
parce
a
que c'est un peu comme un travail de sape, enfin un travail destructeur, un peu en toile de fond, qui fait que ça ne permet pas à notre corps globalement de récupérer correctement, que le cœur continue à travailler d'une façon anormale à ce moment-là pendant les heures de la nuit, et du coup on va petit à petit fragiliser en fait les organes, fragiliser nos défenses immunitaires, modifier même la sécrétion de certaines hormones comme la gréline, la leptine, l'insuline, le cortisol.
L'insuline pour le c'est le diabète, les
oui,
autres.
Oui, enfin c'est le diabète, mais ça intervient aussi dans la régulation de l'alimentation. La leptine et la gréline, ce sont des médicaments, des hormones qui permettent de réguler l'appétit. Et
ça veut dire que quand on dort pas assez, on a plus faim.
Voilà. Globalement, non seulement on mange plus, mais en plus on stocke plus. Donc on grossit. Donc il y a,
c'est des répercussions physiques. Il y a des répercussions aussi psychiques sur l'humeur et on a étudié aussi sur l'apprentissage.
Alors sur l'apprentissage, c'est assez immédiat parce qu'en fait, il y a une diminution des performances qui fait que le lendemain, on est beaucoup moins capable de se fixer sur une tâche et d'acquérir ce qu'on doit acquérir ou de faire ce qu'on a à faire. Voilà, tout simplement. Mais par exemple, justement, chez l'enfant, parce qu'on voit même des enfants maintenant qui se couchent très tard et qui se lèvent assez tôt, donc en privation de sommeil, donc ça va vraiment contrer complètement les apprentissages et les capacités d'adaptation de l'enfant, avec aussi des troubles du caractère, parce que quand on n'a pas dormi ou mal dormi, on est irritable le lendemain, gronchon. Et donc nécessairement, les relations à l'autre vont être altérées, les relations avec les profs, avec les parents aussi. Et il y a des conséquences qui sont vraiment majeures,
et physiques et psychiques au fait de ne pas dormir. Mohamed, vous restez en ligne avec nous parce qu'on verra aussi comment se recadrer, comment justement retrouver, essayer de se coucher plus tôt. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du sommeil et particulièrement celui des ados et des jeunes.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des troubles du sommeil, plus particulièrement chez les adolescents qui passent trop de temps devant leurs écrans d'ordinateur. Et oui, et ça empêche en fait de s'endormir, ça réveille au milieu de la nuit. On en parle avec le docteur Sylvie Royan-Parola, elle est psychiatre responsable du centre d'exploration du sommeil de la clinique du Château à Garches, en région parisienne. Elle est présidente du réseau Morphée et vous pouvez bien sûr continuer à l'appeler au 33 1 84 22 75 75. Et juste avant les informations, on était en ligne avec Mohamed de Conakry en Guinée. Il est toujours avec nous d'ailleurs au téléphone. Il nous expliquait que, bah, comme tous les autres, hein, il passe aussi beaucoup de temps devant les écrans, mais qu'en plus lui, il avait pris finalement une habitude depuis très jeune à se coucher tard. Et du coup, c'est compliqué de se lever le matin et il dort pas assez. Donc vous nous avez bien expliqué dans la première partie de l'émission, docteur Royan-Parola, quelles sont les conséquences pour la santé physique, psychique. Maintenant, on fait quoi quand on essaye de redormir correctement, de se recadrer? Il y a moyen?
Alors en fait, quand on a un sommeil qui s'est décalé, il y a deux éléments qui vont être très très pertinents et très forts pour notre organisme pour se recaler. C'est ce qui va se passer le matin, c'est-à-dire que il va falloir se lever à heure régulière et deux paramètres vont être très signifiants, c'est la lumière, la luminosité. Alors la luminosité, c'est être dehors avec la lumière du jour et ça va être aussi l'exercice physique. Dans le petite note que l'on a sur Mohamed, il a noté dans ce qu'il a dit tout à l'heure en appelant que quand il faisait du sport, il se sentait mieux. C'est exact, Mohamed?
Oui.
Voilà. Alors, en fait, vous vous sentirez d'autant mieux et votre rythme de sommeil va pouvoir se régulariser si vous arrivez à faire du sport le matin. Alors, j'imagine que c'est
pas le soir avant de se coucher,
voilà,
justement.
J'imagine que c'est pas très facile toujours d'organiser du sport, mais ça peut être sur le trajet, par exemple, pour aller prendre les cours ou aller travailler. Ça peut être plutôt que de prendre un transport en commun, de marcher et de marcher vite, donc. De toute manière, comme on doit être assez pressé à ce moment-là, je pense que c'est pas trop un problème. Et du coup, ne pas mettre de lunettes de soleil, par exemple, s'il fait jour, pour pouvoir profiter à la fois de la lumière et faire du sport. Et plus l'horaire va être régulier tous les matins, avec des horaires réguliers tous les jours de la semaine, avec juste le week-end, un petit décalage de 2-3 heures, et plus le rythme va redevenir normal et se recaler sur quelque chose de gérable.
Donc c'est ça, hein, c'est faire du sport et une heure de réveil régulière en
Absolument.
Semaine. C'est, parce qu'autrement, en fait, effectivement, on va se lever tard un matin et du coup, le soir, on va pas réussir à se coucher alors que le lendemain, il faut se lever tôt. C'est ça qui fait qu'on se décale.
Bah, tout à fait.
Merci beaucoup, hein, Mohamed, de nous avoir appelé. On a au téléphone le professeur Aletiam, qui est neurologue au CHU de Fane à Dakar, au Sénégal. Professeur Aletiam, bonjour.
Bonjour, pardon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. La ligne téléphonique n'a pas l'air très bonne, donc attention à parler bien près du téléphone pour qu'on... elle est vraiment pas bonne, la ligne. Est-ce que vous, voilà, il faut peut-être vous mettre un peu dehors, ouvrir la fenêtre. On sait que tendance, ça permet aux lignes de passer un peu mieux. Est-ce que on vient d'entendre, voilà, c'est beaucoup mieux là. On vient d'entendre, beaucoup de témoignages, là, de jeunes sur le continent africain. Ça rejoint tout à fait avec ce que le docteur Sylvie Royan-Parola voit, en France. Effectivement, c'est ce que vous constatez, vous, là, il y a un vrai problème de sommeil chez les ados, au Sénégal?
Effectivement, les problèmes sont très nombreux. Et le plus souvent, le patient ne vient pas seul, il est accompagné par une maman qui est inquiète, parce qu'il voit que son fils ne dort pas. Et parfois, quand il vient tout seul à la consultation, est-ce qu'il faille bien? Bon, le plus souvent, le motif de consultation est autre que le trouble du sommeil. Par exemple, des maux de tête. Et bien souvent, dès que je pense sur mes cahiers, j'ai des maux de tête, mais en réalité, il ne dort pas bien. Et ceci va se répercuter sur son comportement.
Je suis désolée, la ligne téléphonique est vraiment très mauvaise, donc on va faire vraiment très court. Juste, ouais. est-ce que les parents et les enfants et les ados ont conscience de ce problème et est-ce qu'ils arrivent à changer du coup ou c'est vraiment très très compliqué?
Effectivement, ils sont très sensibilisés à ce problème. Ils savent que bon, leur enfant qui va à l'école tous les jours, qui prépare une licence ou un diplôme, qui n'arrive plus à suivre les cours, vous voyez bien que c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que la maman qui est la plus proche du gagnant va plutôt l'amener à la consultation pour trouver du sommeil. Ça, c'est comme ça que ça se voit le plus souvent.
C'est ce que vous voyez de plus souvent. Je suis désolée, professeur Alitiam, mais vraiment la ligne téléphonique est très mauvaise. Du coup, on va pas continuer. Et merci beaucoup de nous alerter aussi sur ce qui se passe au Sénégal. Docteur Sylvie Royan-Parola, mais ok, on a conscience du problème. Je dirais tout le monde a conscience. Les médecins, les parents, je dirais même les ados se rendent probablement compte de ce qui se passe. Mais on fait comment là pour les faire changer ?
D'abord, moi, je trouve très très intéressant qu'effectivement, là, on voit que c'est pas un problème français ou européen, ou c'est vraiment un problème planétaire, je dirais, parce que il y a de nouveaux appareils qui permettent une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de vivre en fait, et qu'on n'a pas encore trouvé le bon moyen pour les utiliser. Et en fait, le bon moyen de les utiliser, c'est que dans la journée, on peut faire strictement ce qu'on veut avec. Et les smartphones sont des outils formidables, mais en revanche, il y a quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'on ne peut pas dormir si on n'est pas quelque part dans sa bulle et un peu coupé du monde. C'est-à-dire que dès qu'on reste en alerte, dès qu'on reste en train de se connecter là pour le coup au sens propre, eh bien le sommeil ne peut pas s'installer. On est comme si on appuyait à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Donc là, il y a pas de secret, il faut vraiment se déconnecter pendant la nuit et anticiper une heure avant à peu près.
Alors c'est ça. Combien de temps avant on se déconnecte?
Il faut qu'une heure avant, on soit en position off, c'est-à-dire prêt à recevoir les messages de sommeil. Et les messages de sommeil ne pourront arriver que si déjà on n'est plus complètement investi dans l'activité et dans la course de la journée.
On a Julie qui nous appelle de Lyon en France. Julie, bonjour.
Bonjour.
J'ai l'impression que vous êtes une maman avec deux ados et j'ai l'impression que vous êtes confrontée au même problème, c'est ça ?
Voilà. Exactement.
Racontez-nous.
Et j'ai deux filles de 14 ans et 16 ans, donc des adolescentes, et l'une est excellente à l'école, l'autre est un peu plus rebelle, et depuis qu'elles ont leur smartphone, eh bien, elles sont continuellement dessus, et tous les soirs, il faut se bagarrer pour qu'elles arrêtent. Alors, moi, je trouve aussi la difficulté, c'est que à l'école, on demande aux ados maintenant d'être sur Internet pour faire des recherches. Et du coup, quand elles font leurs devoirs le soir, elles restent longtemps sur Internet à rechercher. Et parfois même, je n'arrive plus à voir est-ce qu'elles travaillent encore, est-ce qu'elles sont encore en réseau avec leurs amis. Et du coup, celle de 14 ans, je peux encore lui dire, bon, bah, maintenant il est 9h, le téléphone c'est dehors. Mais celle de 16 ans, c'est nettement plus difficile, quoi, parce qu'elles sont quand même...
Bah oui, à 16 ans, ça devient compliqué d'interdire. Puis on voit très bien la phrase, mais non, maman, je travaille. Et en fait, elles sont sur des réseaux sociaux, sur autre chose. Ouais, on aurait tous fait la même chose. Et on l'a fait avec d'autres outils. Quel conseil donner aux parents? Moi, je trouve que ce que soulève Julie est vraiment important. On fait comment? Parce que, à 16 ans, c'est un peu vrai. On peut pas lui arracher le téléphone des mains, là.
Alors, on peut pas lui arracher le téléphone des mains, et je pense que toute famille, enfin chaque famille, va trouver à la fois les messages et la façon de faire qui est adaptée à son fonctionnement. Il y a des familles qui sont dans un fonctionnement plutôt autoritaire, et là, en participant à d'autres émissions, en voyant d'autres témoignages, avec des parents qui témoignaient, qui disaient, ben nous, c'est simple, quand on rentre à la maison, tout le monde met son téléphone dans un panier, donc les parents montrent l'exemple aussi, et tout le monde le smartphone n'est plus d'actualité à partir de 9h du soir. Il y en a d'autres qui disaient, ben moi, je rentre dans la chambre de mes enfants, tous mes enfants, ceux de 11 ans, 12 ans, mais ceux de 18 ans, pour leur faire un petit bonsoir du soir. Il est 9h30, 10h, et je leur dis maintenant, je leur rappelle d'arrêter leur téléphone et de lâcher les appareils. Il n'y en a aucun qui a le droit de l'avoir sur la table de nuit, mais il est sur le bureau, ou par terre, ou plus loin. Et donc, je pense que c'est
quand même assez famille, poser des interdits, quand même, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites.
Ou des limites, un cadre qui est expliqué. Mmh. Et il faut expliquer aussi pourquoi. Parce que si on ne dit pas pourquoi et quelles sont les conséquences, bien sûr, l'adolescent va avoir du mal à le faire. Mais je pense que ça, c'est des messages que les parents doivent passer, au même titre qu'ils disent non, dans certains cas, pour certaines choses, parce que ça leur semble évident. Et là, pour le coup, au niveau des téléphones, ça nous semblait pas évident avant, parce que la technologie arrivant, on n'avait pas de règles de bonne pratique. Maintenant, on commence à avoir les conséquences. Eh bien, les parents vont devoir jouer leur rôle.
Julie, j'avais envie de vous demander, est-ce que vos filles ont conscience du problème et que ça peut les empêcher de dormir suffisamment?
Alors, oui et non, elles en ont conscience, mais surtout, elles me disent, « Oh, j'ai travaillé toute la soirée, maintenant, je veux tchatcher avec mes copines. » Donc voilà, c'est un petit peu ça le...
C'est un peu ça le problème. Voilà. Est-ce que vous aviez...
Souvent, dans les écoles, ils disent, bon voilà, faut servir des multimédias, mais ils ne disent pas où sont les risques.
Oui. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce dont le docteur Sylvie Royan-Parola a parlé en début d'émission, de la question de cette lumière bleue sur les écrans qui finalement empêche de s'endormir?
Alors, pas tout à fait. Moi, je leur demandais d'arrêter à cause des problèmes, des ondes. Mais au niveau de la lumière, non, j'en avais pas encore vraiment entendu parler, quoique il y a 2-3 mamans qui m'avaient dit ah oui, il paraît qu'il y a ça, etc. Oui.
Et je pense
qu'il faut faire écouter votre émission en podcast à mes filles. Comme ça, elles vont peut-être justement...
Pour qu'elles comprennent cette histoire de lumière bleue. Alors, et juste, il y a quand même un truc par rapport à cette lumière bleue, c'est qu'il y a une application qui permet de changer la densité de cette lumière, c'est ça, docteur?
Oui, il y a plusieurs applications qui permettent effectivement de modifier la tonalité lumineuse de l'écran, et donc qui, au moment... généralement, elles s'auto-programment sur le fuseau horaire, et donc à partir d'une certaine heure, en général, c'est 22 heures, l'écran prend une couleur plutôt rosée. Donc c'est bien parce que ça filtre le bleu, mais d'un autre côté, ça fait perdre quand même de la beauté de l'image. Donc je suis pas sûre que les jeunes le fassent directement, mais il faut nécessairement au moins leur demander de diminuer la luminosité de l'écran. Et je pense que à la limite, ça peut être une bonne alternative d'installer l'appli.
Dites-nous le nom de l'appli, c'est Flux.
Alors il y a un truc qui s'appelle Flux.
Oui.
Mais sinon, il y a des lunettes orangées qui permettent effectivement de filtrer la lumière bleue et donc ne pas avoir cet effet de la lumière sur l'écran. Ça n'empêche qu'il y aura toujours l'effet stimulation réseau social, c'est-à-dire que le fait d'être en communication avec l'autre, ça changera pas et c'est toujours très stimulant, surtout que ce genre de discussion qu'on a à 10h, 11h du soir, c'est des discussions qui sont plutôt sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, plutôt riches. C'est un petit peu de la confidence et on se dit des choses qui sont importantes, absolument.
Et ça peut aussi empêcher de dormir.
Et ça peut empêcher de dormir, absolument.
Merci beaucoup, Julie. J'espère que, du coup, cette émission va vous aider. On a Noum qui nous appelle du Mali. Noum, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Noum.
Ouais. Mon cas est particulièrement différent de ces témoins-là. Parce qu'en réalité, je ne m'occupe pas des écrans. D'ailleurs, la télévision aussi, je ne regarde pas. J'ai du mal aussi, j'ai du mal à dormir. Même quand je me couche à vers 21h, je me réveille très tôt et je dors à peine 3 heures pendant la nuit.
Et qu'est-ce qui vous empêche de dormir, vous, alors?
Bon, franchement, ce n'est pas un problème d'écran. Ben, je pense que c'est un problème de réflexion, c'est un problème d'occupation, pas professionnelle, mais psychologique, je pense.
Et psychologique, dites-nous un peu plus, que dans le message que vous avez laissé à Jeanne, vous en avez dit un peu plus.
Voilà, donc j'ai dit que juste après la fin de mes études en 2010, j'ai commencé à avoir de l'insomnie au moment de mes sommeils.
Et suite, je crois que ce que vous aviez dit, c'était suite à une déception amoureuse.
Pas particulièrement, pas, je dis que c'est en général, il y a des aspects psychologiques,
oui, qui jouent. Je pense que c'était important qu'on aborde aussi cette question-là dans la question du sommeil des jeunes et des ados, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé des écrans. Vous avez commencé, docteur Sylvie Royan-Parola, à parler aussi de choses intimes qu'on échange dans les SMS en fin de journée. Et effectivement, ce qui peut perturber le sommeil aussi, c'est sa vie affective.
Bien sûr, tout ce qui touche les émotions a un gros retentissement sur le sommeil. Dès qu'on est anxieux d'une situation, en attente de quelque chose, ou qu'il y a une rupture amoureuse, et on sait par exemple que à cet âge-là, ça peut être des choses qu'on vit et qu'on vit plusieurs fois, ça va perturber l'individu dans son entier, mais bien sûr, il y aura un retentissement sur le sommeil. Donc, c'est normal, il faut bien comprendre que le sommeil, c'est aussi un moment où, pour pouvoir s'endormir déjà, il faut être serein, et qu'ensuite, dans la nuit, notre cerveau va traiter les informations, donc quelque part, va réactiver tous les soucis, toutes les problématiques, pour les traiter, les classer. Mais parfois, quand il les traite, eh bien, ça va quand même survenir à la conscience, et ça va réveiller et continuer à trottiner dans la tête, comme
disent les gens. Et on fait comment, du coup ? Vous allez nous dire, on pense à autre chose, facile à dire, pas facile à faire.
Non, je pense que quand on est en train de vivre sur le plan affectif des choses difficiles, il faut pouvoir les traiter dans la journée, c'est-à-dire il faut pas fuir la discussion, il faut pas fuir les pensées, il faut en parler éventuellement à des amis, mais il y a aussi des psychothérapeutes qui sont faits pour ça. Et puis quand on est très préoccupé, par exemple dans une situation où il y a des échéances, où il faut faire des choses et qu'on a tendance justement à cogiter un peu trop la nuit, il y a une technique qui est intéressante, c'est que le soir, à ce moment-là, une demi-heure avant d'aller se coucher, on se fait un petit peu une liste avec demain, il faut que je fasse telle chose, il faut que je pense à appeler telle personne, à acheter tel truc, à faire tel programme que je dois remplir, etc.
Il vaut mieux faire la liste avant de se coucher, c'est ça ?
Mais il faut faire la liste avant de se coucher, sinon la liste, vous allez la faire toute la nuit.
Ça va être horrible. Donc merci beaucoup, Noum, pour votre message et bon courage à vous. On a Madiao qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Madiao, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute.
Voilà, j'ai 27 ans et je suis étudiant. À chaque fois que je suis en vacances et que je n'ai rien à faire, j'ai du mal à m'endormir et je peux rester allongé longtemps à écouter la radio ou bien regarder des films pour m'occuper. Du coup, je m'endors en général vers 4h du matin, voire plus, et me réveille très tardivement vers 14h ou 15h. Mais quand je reprends mes activités, c'est très dur au début. Mais je m'endors parfois en classe aussi.
Eh oui, il faut se recadrer après. C'est l'histoire du décalage horaire, ce que tu es en train de nous raconter, Madiao, docteur Sylvie Royan-Parola. Ben,
tout à fait. C'est intéressant parce que, justement, ça montre bien que l'heure du lever et l'obligation du lever va être très synchronisante sur notre sommeil et très structurante aussi sur notre sommeil. C'est-à-dire que dès lors qu'on se dit qu'on peut rester au lit beaucoup plus longtemps, en fait, le sommeil va avoir tendance à ce moment-là à se décaler, mais non seulement à se décaler, éventuellement on se sent recoupé parce que si on se couche très tôt et si on se lève très tard, le sommeil serait censé occuper tout cet espace et ça c'est pas possible parce que on va avoir besoin de 8h, 9h, peut-être 10h de sommeil au grand maximum. Si on reste couché de 21h jusqu'à midi, le sommeil ne veut pas occuper tout cet espace, donc il y a une pseudo-insomnie qui se crée, c'est-à-dire qu'en fait, le sommeil s'entrecoupe et ne dure pas plus longtemps, et donc il y a des trous. Ce qui donne une impression très désagréable. Donc ça, il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est des vacances qu'il faut nécessairement se lever à midi ou une heure. Il vaut mieux se lever à l'heure habituelle ou un petit peu plus tard, une heure, deux heures. Mais par contre, avoir une activité qui soit soutenue dans la journée, en particulier en privilégiant régulièrement du sport. Et là, on voit que le sommeil se régularise et reste beaucoup plus bénéfique parce que on récupère mieux.
Je suis désolée, on a Abdouaziz qui nous attend au téléphone, mais on n'a pas le temps de prendre parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission. Mais lui, par exemple, c'est un peu la même histoire que les autres, si ce n'est qu'il rajoutait dans son témoignage qu'il prend de temps en temps des somnifères. J'imagine que ça, ados et jeunes, vous déconseillez fortement. Attention.
Bah oui, absolument. Enfin, c'est vraiment très très indiqué. Enfin, très ponctuellement. Et si c'est vraiment régulier, c'est qu'il faut consulter et voir ce qu'il y a derrière.
Et éviter l'automédication, j'imagine.
Absolument.
L'automédication
est assez.
Je voulais vous faire part juste aussi d'un message d'Abdel qui nous dit je suis collé à mon smartphone tous les soirs jusqu'à 2h du matin. Au moins, il faut aussi dire qu'au Bénin, c'est date de telles heures que la navigation sur Internet est la moins coûteuse. Alors ça, c'est aussi un problème.
Ça c'est un effet pervers entretenu par la société, quelque part. Hein. Parce que on va favoriser, et on a connu ça avec certains opérateurs en Europe qui, pendant un temps, faisaient que les SMS étaient gratuits. Donc les jeunes, ça incitait les jeunes à se connecter à un moment où la connexion illimitée n'existait pas. Donc là, on fonctionne à l'envers entre une société qui donne finalement des consignes implicites comme ça et un problème de santé publique qui émerge et pour lequel justement il faut faire strictement l'inverse.
J'avais aussi un message de Wendy Mini qui dit, pareil, il est sur son smartphone jusqu'à point d'heure, mais alors, du coup, il reste jusqu'à 2h, 3h du matin, mais quand il s'agit de réviser ses cours, là, à 22h, il s'endort telle une masse.
Oui, mais parce que là, effectivement, réviser ses cours sur des feuilles papier, j'imagine, ou sur un cahier, ou sur des livres, il y a un côté qui est à la fois pas très stimulant sur le plan visuel, et puis d'autre part, on parle pas assez court, donc on n'est pas dans la communication. Donc évidemment, il va s'endormir.
On a aussi eu, et là c'est vraiment ma dernière question, quelques messages, et je pense à Edwige qui est à Accra, qui dit, mais alors moi c'est exactement l'inverse, au contraire, je m'endors justement quand je regarde un film, ça m'aide à m'endormir. On entend ça aussi.
Oui, c'est vrai. Alors, je vois actuellement de plus en plus d'adolescents, de jeunes en tout cas, qui s'endorment avec leur ordinateur à côté. Ils ne le regardent pas, c'est pas la lumière, mais ils mettent en fait un film et ils écoutent l'histoire et c'est le même film qui repasse tous les soirs. En fait, ils se récitent la petite histoire de leur enfance tous les soirs, mais c'est la version série machin. Et donc, pendant 15 jours, ça va être la même histoire.
Ça altère la qualité du sommeil?
Non, je pense que non, ça n'altère pas la, s'ils ne regardent pas l'écran, ça n'altère pas la qualité du sommeil, mais ça montre combien il y a vraiment un problème dans notre société pour l'endormissement, où quelque part il faut arriver à lâcher prise, à se laisser aller et à avoir confiance, et que c'est bien d'accompagner, mais il faut pas qu'il y ait un doudou qui soit permanent et qui fâche, que quelque part on n'arrive pas à cette séparation.
Et juste pour information, en régie, Didier me dit, on a cherché à joindre Edwige, elle dormait justement, probablement qu'elle avait regardé des films beaucoup trop tard. Merci beaucoup docteur Sylvie Royan par là, nous avoir interpellé sur cette question, sur l'importance du sommeil des adolescents et sur la question des écrans, parce que nous aussi adultes finalement on est concernés. Et on va terminer en parlant du don de moelle osseuse. Professeur Jean-Hugues Dalle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé pour nous alerter aussi sur un sujet important. Vous êtes médecin greffeur dans le service de pédiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris. En ce moment se déroule la 10e semaine nationale de don du moelle osseuse. Dites-nous d'abord dans quelles circonstances ce don de moelle osseuse est-il utile, dans quelle pathologie?
Alors d'abord, merci pour votre invitation. Dans des pathologies essentiellement hématologiques et en pédiatrie, donc pour ce qui est de ma partie, on va greffer à peu près 2/3 des enfants pour des pathologies malignes, essentiellement des leucémies, et puis aussi pour des pathologies de la moelle osseuse, la moelle qui est à l'intérieur de l'os et qui produit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, et qui pour des raisons parfois des génétiques ou des raisons inconnues, va mal fonctionner, produire les mauvais globules, et donc il va falloir remplacer finalement cette machine à produire le sang.
Et ce don de moelle osseuse sauve des vies dans des pathologies que vous venez de nous citer?
Bien entendu, il y a à l'heure actuelle presque 2000 patients qui tous les ans en France, adultes et enfants, sont greffés. Et bien entendu, autant de patients greffés, ben, ça veut dire autant de donneurs.
Et alors comment ça se passe? Est-ce que c'est un don qui est compliqué?
Alors ça n'est pas très compliqué, mais ça n'est pas non plus complètement simple. D'abord, il faut signaler lorsque l'on veut donner pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. La démarche est un petit peu différente quand il s'agit d'un don en intrafamilial, mais quand on veut être donneur, altruiste, il faut se signaler auprès de l'Agence de la biomédecine. Maintenant, c'est très simple, ça se fait à travers un site internet où on peut se préinscrire. Bien sûr, il va y avoir un certain nombre d'examens, pas très compliqués, mais un entretien avec un médecin, puis des examens sanguins, parce que notre volonté va être double. D'une part, bien entendu, rendre service au patient pour lequel on a besoin d'un donneur de moelle, mais avant tout, protéger le donneur, parce qu'il est hors de question de faire prendre un risque quel qu'il soit au donneur. Donc il faut que ce soit très surveillé, très encadré, de façon à ce que tout ça se passe le plus facilement et surtout la façon la plus sécuritaire pour le donneur comme pour le receveur.
Et vous, j'imagine que si vous alertez sur ces questions-là, c'est que vous manquez de donneurs.
On manque de donneurs nationaux. On a la chance de pouvoir recruter des donneurs dans le monde entier parce qu'il y a un réseau mondial de registres de donneurs de moelle, ce qui nous permet, lorsqu'on ne trouve pas au niveau français, d'aller chercher à l'extérieur, et les donneurs étrangers répondent de la même façon. Mais il y a des particularités au niveau de la population française, en fonction de l'histoire finalement de notre pays, de son histoire coloniale, des flux de population qui font que certaines populations représentées en France se retrouvent pas nécessairement dans d'autres pays, et que c'est pour ça qu'il faut que, finalement, la communauté française, dans sa diversité, puisse être représentée dans le registre français de greffe de moelle, de façon à ce qu'il y ait une adéquation entre notre diversité sur le territoire et ce registre France greffe de moelle.
Alors, si on est très concret, est-ce que ça veut dire que vous manquez de donneurs dont les familles sont originaires d'Afrique, par exemple, ou d'Asie ?
Oui, absolument, parce que on a le donneur qu'on va rechercher doit ressembler d'un point de vue
le plus compatible possible, c'est ça.
Le plus compatible possible au niveau immunitaire avec le receveur, mais que cette immunité qui va être portée par la génétique, finalement, eh bien, cette génétique, elle va dépendre effectivement de notre lignée, de ce qu'ont été nos parents d'un point de vue génétique. Et lorsque vous êtes originaire d'Afrique, eh bien, effectivement, s'il n'y a sur le registre que des donneurs caucasien, des donneurs
d'Europe,
eh bien, effectivement, vous avez moins de chances que les autres d'avoir un donneur qui soit compatible avec vous. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on tient tellement à développer cette diversité au niveau du registre français France greffe de moelle, de façon à ce qu'effectivement on retrouve la diversité de notre population.
Donc en fait, voilà, si vous avez une famille qui est d'origine, je dirais, un peu d'ailleurs, entre autres du continent africain, voilà, ça peut valoir le coup de prendre contact avec vous. On mettra toutes les coordonnées sur notre site internet. Merci beaucoup de nous avoir aussi interpellés sur cette question du don de moelle osseuse. Demain, on parlera d'un tout autre sujet. Vous savez qu'on sera jeudi, premier jeudi du mois. C'est le docteur Catherine Solano qui répond à vos questions avec un sujet qui passionne absolument tout le monde. Comment être un bon amant ou une bonne amante? On attend vos téléphones. Vous pouvez évidemment laisser des messages sur Facebook et le téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.